commencer. Quitte à rabâcher, peut-être pour vous, mais ça marche pas terrible, hein, si. Donc je disais quitte à rabâcher.
Bonsoir, donc, d'abord, donc, je voulais remercier. Donc, Stéphanie,
bonjour.
Voilà, c'est notre invité pour ce soir, donc c'est elle qui va commencer ce soir.
Dans les séminaires. Donc, elle va parler sous le titre et Lacan, les contemporains. Voilà.
On va... Le contemporain.
Voilà.
Bon, donc je disais que j'allais vous rabâcher sur la structure des quatre discours de Lacan qui accompagnent le réel, qui accommodent le réel. Fonctionnant sur la répartition sur quatre places d'un quadripode, des quatre termes impliqués par le langage, toujours au principe du lien social, le langage, lequel traite la cohabitation des corps, le vivre ensemble, et vivre impliquant l'élément réel jouissance. Donc, les quatre places en question. Sur la ligne du haut, les places constituantes disparitaires selon une hiérarchie symbolique. La matrice en est le discours du maître que vous connaissez. Hein, où c'est S1 qui se loge à la place du semblant, qui produit en dessous une modalité commune de jouissance, mais qui laisse tranquille les vérités de jouissance individuelles, celles qui viennent de l'inconscient et qui relèvent éventuellement de la psychanalyse. Une variante du discours du maître, c'est le discours universitaire, avec S2 à la place du semblant, et puis le discours de l'hystérique, quand c'est S barré, qui passe à l'agent, le discours hystérique dont Lacan nomme un peu différemment les places dans l'envers, en dessous, désir, haute, vérité, perte. Et le discours de l'analyste dans lequel la place de commandement du semblant est donnée à petit a, cependant d'aversion à l'égard du semblant. Promis à la chute, petit a promis à la chute, et qui pousse le savoir à la S2, à la place de la vérité. Bon, c'est tout sur mon rabâchage. Si, encore un petit truc, il y a deux discours que de la jouissance, et pas seulement celui de l'analyste. Hein. Un discours, c'est de la politique envers le réel de la jouissance. Et pas de discours qui ne soit du semblant. Le sens d'un discours vient du semblant à la place de l'agent. Alors, une petite remarque, le semblant à la place de l'agent dit que l'agent n'est pas forcément une personne de pouvoir, et que même s'il se trouve une personne de pouvoir à cette place-là, elle sera assujettie à un semblant, au signifiant maître, de ce qu'elle veut obtenir en exerçant pouvoir. Le pouvoir de ceux qui en usent est donc dominé par le pouvoir du S1 en place d'agent. Alors, le discours du capitaliste. C'est une sorte de apax chez Lacan. Il l'a dit une fois pour toutes, mais on peut s'en servir. Évidemment, on s'en sert. Ce n'est pas à proprement parler un discours, puisqu'il manque le couple des places constituantes du discours. Cependant, il y a bien une politique envers le réel de la jouissance comme production extensive du manque à jouir. Il se lie avec les flèches, S barré, qui commande au S1 et au S2, qui produit petit a, les multiples objets qui commande au désir des sujets, sans que rien, aucun impossible, n'arrête ce cercle vicieux où rien ne se perd, qui fait les sujets producteurs et consommateurs de leurs produits. Séduit, berné, dupé par cette machine mercantile qui fournit tous ces mêmes prêts à jouir pour tous, ces objets du progrès, ces attrapes, ces latouses, comme dit Lacan, qui ne dévoilent pas leur vérité. À la place de la cause réelle du désir, escamotant le manque à être par le manque à avoir, par le manque à jouir. Ça consomme si bien et si vite que ça se consume, a dit Lacan à Milan en 70. Ce qui se consume, n'est-ce pas la vérité du désir et de la jouissance de chacun? Alors, j'ai proposé donc de parler de Giorgio Agamben. Que nous dit-il sur notre époque? Je me suis servi de deux courts textes, un qui s'appelle « Qu'est-ce que le contemporain ?» et « Qu'est-ce qu'un dispositif ?» D'abord, il m'a donné l'idée du titre de mon exposé, « Lacan, le contemporain », pour ce qui est de rejoindre la subjectivité de notre temps. Le vrai contemporain est celui qui ne coïncide pas avec lui, ni d'adhère à ses prétentions. Par cet écart, il est plus apte que les autres à percevoir et saisir son temps. C'est celui qui fixe le regard sur son temps pour en percevoir non les lumières, mais l'obscurité. C'est celui qui sait voir cette obscurité. Nous dirions autrement, celui qui sait entendre l'énonciation sous l'énoncé ou interpréter le discours dominant de son temps. La vision de l'obscurité s'obtient des off cells, des cellules à la périphérie de la rétine. Le contemporain ne se laisse pas aveugler par les lumières du siècle et parvient à saisir en elles la part de l'ombre. L'obscurité de son temps est une affaire qui le regarde et n'a cesse de l'interpeller. Dans « Qu'est-ce qu'un dispositif ?», Agamben définit la phase extrême du développement du capitalisme dans laquelle nous vivons comme une gigantesque accumulation et prolifération des dispositifs. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul instant de la vie des individus qui ne soit modelé, contaminé ou contrôlé par un dispositif. Alors, qu'est-ce qu'un dispositif ? C'est un concept qu'Agamben emprunte à Foucault, en tant qu'il a une fonction stratégique dominante, toujours inscrite dans un jeu de pouvoir. Ainsi, j'appelle dispositif tout ce qui a d'une manière ou d'une autre la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. Le langage est le plus ancien des dispositifs, dans lequel, dit avec humour Agamben, un primate en tant qu'être vivant ou substance, probablement incapable de se rendre compte des conséquences qu'il attendait, eut l'inconscience de se faire prendre. Ces conséquences, nous les connaissons, ce sont celles du signifiant sur le vivant, soit la castration. L'événement qui a produit l'humain constitue pour le vivant une séparation, une scission séparant le vivant de lui-même et du rapport immédiat avec son milieu. On voit là qu'Agamben suppose une perte première, réelle, perte de la jouissance de son milieu. Le vivant connaît alors l'ennui et l'ouvert, concept qu'il reprend de Huxkull et de Heidegger. L'ouvert, on pourrait dire, puissance de la pure perte, puisqu'il en dit que c'est la possibilité de construire un monde et la possibilité des dispositifs qui qui peuple l'ouvert, instruments, objets, technologies de toute espèce, qui inclut chaque chose, qu'elle soit discursive ou non. Ainsi, l'ouvert est au principe de toute libido qui investit les objets. Les dispositifs ne sont pas un accident dans lequel les hommes se trouveraient pris par hasard. Ils plongent leurs racines dans le processus même d'hominisation qui a rendu l'humain homo sapiens, qui a rendu humain l'homo sapiens séparé des animaux. Et encore, à la racine de tout dispositif se trouve un désir de bonheur humain, trop humain, qui constitue la puissance spécifique du dispositif. De la relation de corps à corps entre le dénommé primate et les dispositifs, le langage en étant le plus ancien, résulte un processus de subjectivation, la production d'un sujet. Le capitalisme et les figures modernes du pouvoir, par exemple le biopouvoir, semblent pousser à l'extrême le processus de séparation et par conséquent de subjectivation sans lesquels les dispositifs ne sauraient fonctionner et gouverner. Mais, dans la phase actuelle du capitalisme, les dispositifs n'agissent plus par la production d'un sujet, mais bien par des processus que nous pouvons appeler de désubjectivation. De là, l'éclipse de la politique et le triomphe de l'économie, c'est-à-dire d'une pure activité de gouvernement qui ne produit rien d'autre que sa propre reproduction. On voit bien là le quadrupode de Lacan du discours capitaliste. Et qui produit un corps social le plus docile et le plus soumis qui soit jamais apparu dans l'histoire de l'humanité. Et, dit Agamben, qui se laisse prendre dans le dispositif du téléphone portable, l'objet prêt à jouir type, et quelle que soit l'intensité du désir qu'il y a poussé, n'acquiert pas une nouvelle subjectivité, mais seulement un numéro duquel il pourra éventuellement être contrôlé. Le spectateur qui passe sa soirée devant la télé ne reçoit en échange de sa désubjectivation que le masque frustrant du zappeur ou de son inclusion dans un indice d'audience. Que faire face à cette situation? Il ne s'agit pas de détruire tout ce qui nous gouverne dans tous nos gestes quotidiens, dans notre santé, nos activités, notre alimentation, nos désirs, ni, comme le suggèrent certains ingénus, d'utiliser les dispositifs avec justesse. Agamben propose la profanation. Rendre profane, c'est-à-dire restituer au libre usage et à la propriété des hommes les choses sacralisées qui ont été transférées au sein d'une sphère séparée. Et ce qui règle cette séparation, toute séparation contenant ou conservant pas de verre, soit un noyau authentiquement religieux, c'est le sacrifice qui marque le passage par le rite du profane au sacré, de la sphère des hommes à celle des dieux. La profanation est le contre-dispositif qui restitue à l'usage commun ce que le sacrifice avait séparé et divisé. Le capitalisme, comme religion du progrès, semble généraliser et pousser à l'extrême les processus de séparation désubjectivant. Il faut donc être capable aussi bien d'intervenir par la profanation que sur les processus de subjectivation. Et là, sans doute, c'est moi qui l'ajoute, la psychanalyse y peut quelque chose. Maintenant, je passe à Marcel Gaucher. J'ai essayé de vous résumer son essai de psychologie contemporaine, qui n'est pas un article récent, ça date de 98, mais bon, c'est quand même, ça reste très intéressant. Alors, Marcel Gauchet, s'il ne connaît pas la visée universalisante de la science qui se réalise à travers le discours capitaliste, met plutôt l'accent comme raison de la dégradation du lien social sur l'universalité abstraite des droits de l'homme, l'égalité civile et politique, qui est en quelque sorte passée au réel, c'est-à-dire que les droits de l'homme sont réduits dans notre capitalisme de marché, dans notre subjectivité néolibérale, au droit de chacun, à sa volonté privée, en expression sociale de l'individualisme. Une nature spécifique de l'individualisme, un nouveau type d'individualisme, une nature spécifique de l'individualisme qui triomphe dans la logique individualiste égalitaire ou paritaire. Car ce discours ne produit aucune modalité commune de jouissance, aucune socialisation, définie par Gaucher comme processus d'incorporation des usages et des règles qui assurent la coexistence collective. Nous dirions, pour les usages et les règles, les semblants unificateurs des quatre discours de Lacan. La socialisation dont il parle, qui rend possible un espace organisé de coexistence, suppose la précédence du social, le point de vue de l'ensemble, suppose que le lien de société précède les individus et suppose qu'ils consentent à cette antériorité, à cette hiérarchie dans le sens plein du terme, au bien fondé de l'ordre proposé. Selon Gaucher, l'autorité, une légitimité supérieure, est constitutif du lien social, soit une hiérarchie symbolique que le capitalisme de marché, désormais mondial, met au rencard, faisant disparaître les places constituantes lisibles dans les quatre discours de Lacan, les places de commandement ou d'autorité, soit les inégalités signifiantes qui y fondent le lien social. Dans notre discours capitaliste, que Gaucher appelle capitalisme de marché ou néolibéral, autorité, légitimité supérieure ont été neutralisées par le droit, verrouillées par le juridique, ce qui entraîne l'illusion de pouvoir se dire du pouvoir, bon débarras. La société a disparu derrière les individus et leurs droits. Nous sommes libres et égaux, mais nous ne pouvons rien. C'est une liberté sans pouvoir autre, peut-être, que de vivoter tout seul avec un symptôme non pris dans l'autre. C'est le droit qui est la règle générale de la vie sociale au moyen des libres transactions et des contrats entre les individus, à tous les niveaux, jusque dans la sphère érotique, confère le libre-échangisme sexuel. C'est une idée juridique de la démocratie qui a remplacé l'idée politique et sociale de la coexistence des libertés individuelles. Et c'est cette démocratie des droits de l'homme, avec sa régulation juridique, à quoi nous avons donné le pouvoir pour échapper au pouvoir, qui a émancipé la sphère économique, favorisé le règne du marché, associé au phénomène de la privatisation, qui donne une société civile, qui se veut purement privée, contre le public, rendu impuissant par le juridique de l'individualisation. Gaucher donne un exemple, ce qui se passe au niveau de la famille, qui est un des modes de constitution du lien social. S'allier par mariage n'était pas seulement s'allier avec une personne, c'était s'allier avec une autre famille, fait-il remarquer. Située à l'intersection de la reproduction de l'espèce et du social, la famille est devenue une affaire privée sur la base de volonté privée et affective. Il l'a dit, désinstitutionnalisé, cessant d'être une collectivité significative du point de vue de l'établissement et de l'entretien du lien social. On peut en effet voir comment sa fonction de socialisation, aussi bien que lieu du conflit, de contraintes et d'échanges, est reportée sur l'école ou sur les experts en la matière. Ainsi, dans notre démocratie, se sont dénouées les libertés privées des personnes qu'elles garantissent et la souveraineté publique, le pouvoir du gouvernement légitime. À la place, nous avons la gouvernance, soit une interaction sans maître pour une société politique de marché. Se sont dénoués également l'histoire, le politique, comme ce qui commande et organise, et le droit, au seul profit du droit de l'individu et de ses intérêts propres et de ses aspirations à la jouissance. Le droit sans l'histoire et le politique récusé au nom de la notion de liberté et d'indépendance. L'individualisme dont parle Gaucher, il ne faut pas l'entendre comme un phénomène psychologique. Ce n'est pas l'individuation, mais bien comme une nouveauté anthropologique absolue, dit-il. Un individualisme de déliaison. Cette poussée de l'individu de droit, revendiquant son indépendance, déchargé du lien social, ne va pas sans l'expérience d'une solitude existentielle. Avec la psychanalyse, nous pourrions dire une double solitude. Celle structurale de Yadlin, désunifiant de Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, seul avec son un de jouissance de symptômes, et celle du symptôme social du discours capitaliste, dont le réel est l'impossible du lien social, autre il n'y a pas. Solitude des uns tout seuls, sans rien pour faire lien à d'autres partenaires humains, tous prolétaires, réduits à leur corps, sans le pacte de la parole, comme a dit Marc Strauss. Précarité, à quoi nous sommes condamnés. Un des traits de l'individualisme ultra-contemporain est donc un individualisme de déliaison dans une démocratie d'identité privée qui a un effet global d'agrégation sans consistance, d'individus désorientés dans des kleineren Kulturkreise, c'est-à-dire dans le narcissisme des petites différences, la fermeture en petits ghettos de civilisation réduit les bandes, les sectes, retour au narcissisme primaire. C'est ce réel du symbolique, du symptôme social que l'analyste doit contrer, c'est dit Lacan dans la troisième, en offrant le lien social de la psychanalyse comme sortie du capitalisme. La solitude existentielle n'est pas sans engendrer des problèmes d'identité. Sans identification reçue de l'autre, sans du « avant nous » ou du « nous », dit Gaucher, que vous pouvez contester dialectiquement, vous avez à affirmer une identité personnelle et privée en négociant avec les choses que vous n'avez pas choisies, parents, sexe, lieu de naissance, langue, en imposant vos intérêts singuliers sans pouvoir ou dans un refus d'inscrire vos demandes et vos revendications dans l'ordre collectif, laissant à la gouvernance, dans un jeu de marchandage, le moyen de les satisfaire. Ce qui fait tendre nos démocraties vers une société de marché et vers son oligarchisation. La dynamique individualiste qui répond à l'impératif d'être soi-même, qui ne veut pas dire être au clair avec soi-même ou savoir ce qui vous conduit, provoque des interrogations vertigineuses sur l'identité, travaillant ouvertement les naissants, vivants, mourants, comme dit Gaucher, qui sont source de déchirements individuels et d'angoisse. pour répondre à cet impératif de n'avoir de cause que soi, il faut se garder par devers soi, savoir se reprendre de ses éventuelles adhésions et modèles. Eux, c'est eux, et moi, c'est moi. Revendication d'une différence pas toujours voulue. Pour recommencer un peu plus tard, un peu plus loin, être mobile, compétitif, réactif, toujours plus de performances et d'exploits dérisoires, comme dit Lacan. Passer à autre chose, puiser son désir à d'autres sources, se désengager de soi-même comme des autres pour le profit sur le modèle culturel du marché dont la diffusion dissout les formes de civilité. Mais cette mobilité pour exercer la propriété de soi peut engendrer le sentiment de n'être plus rien ni de nulle part. Et ajoutons avec Lacan que celui qui veut jouir sans contrainte tombe sous le coup de l'ennui et de la morosité. Ainsi, l'individu contemporain aurait en propre d'être le premier individu à vivre en ignorant qu'il vit en société. Il serait l'individu déconnecté symboliquement du point de vue de l'ensemble. Appelons-le S1. Mais par contre, c'est un individu porté par la nouveauté technique capable de se brancher et de se connecter, qui sait se couler dans l'univers des réseaux dits sociaux. Le réseau optionnel, autant dire que c'est l'antistructure, que c'est un marché généralisé, car il démontre bien qu'il n'est rien qui ne puisse s'échanger. Mais être connecté, ça ne fait pas lien social. Alors, pour exister, il faut se brancher sur les autres, mais à distance, dans l'éloignement, hors du contact physique. Comme dit Gaucher, les gens ne peuvent plus se sentir. Apprendre au pied de la lettre, dont la propreté, des lingettes partout, un nombre industriel de lingettes, témoigne le souci de neutraliser les odeurs corporelles. Et dans le domaine de l'agir, le passage à l'acte de rupture avec soi et avec les autres, la violence, les drogues, les sectes. À quoi Marcel Gaucher en appelle-t-il? Eh bien, il en appelle au un unifiant, au un du pouvoir. Mais celui qui n'est jamais légitime une fois pour toutes, c'est-à-dire quand même qu'il est de l'ordre du semblant. Il propose de réapprendre le pouvoir et de définir les conditions de son bon usage. Car c'est une illusion que de se passer du pouvoir, folie douce de faire comme s'il n'existait pas. Il existe, séparé, extérieur, mais d'une extériorité interne. Parce que le pouvoir se passe entre nous, que le pouvoir, c'est nous. Faudrait-il un chef? En tout cas, un chef qui aurait cette vocation très spéciale du pouvoir, celui qui n'hésite pas parce qu'il sait que la fin justifie les moyens. Mais, dit-il, l'espèce des gens de pouvoir est en voie de disparition. Alors, maintenant, la pratique de la psychanalyse, aussi, selon Lacan, est en mesure de répondre au discours capitaliste. Dans Télévision, il avance que la sortie du discours capitaliste pourrait s'opérer par une psychanalyse menée à sa fin, au un par un, donc. Ce qui implique, mine de rien, qu'il y ait beaucoup de psychanalystes, plus on est de saints, plus on rit, et que l'analyste aurait à mener chacun de ses analysants à cette fin. Et dans la troisième, il assigne au psychanalyste la fonction, la mission de contrer le réel du symptôme social, le réel de l'impossible du lien social de notre temps. C'est affirmer le poids et la portée politique de la psychanalyse. La psychanalyse au chef du politique. Ce que je comprends maintenant, parce que ça m'a beaucoup travaillé cette formule, c'est que la psychanalyse, en effet, s'occupe de la jouissance du symptôme, de la dissidence, de la singularité du symptôme, qui résiste à être gouvernée, orientée, formatée par le discours dans des semblants, à jouir homogénéisé, commun, lequel est donc de la politique pour régler la jouissance et le rapport au réel. Mais à quoi échappe cette dissidence du symptôme dont s'occupe la psychanalyse ? Le discours capitaliste, dans le pousse à la consommation de ses prêts à jouir pour tous, dans ses implacables injonctions, vise à réduire les différences autant que les autres discours, mais de façon férocement surmoïque, et les singularités écrasées peuvent faire retour dans le réel en barbarie. La psychanalyse. Le discours analytique étant un lien social qui vaut d'être porté à la hauteur des plus fondamentaux parmi les liens qui restent pour nous en activité, propose aux prolétaires de rentrer dans le lien qu'elle préserve. Elle vise la différence absolue, soit un sujet transformé en mesure de se séparer du discours de l'autre pour son jugement intime et qui, ayant minoré la vérité, plus en mesure d'affronter le réel. Elle permet d'orienter le désir vers un but stable et déterminé, un désir fixé qui peut ainsi échapper aux injonctions du marché, à ses calculs sur la désirabilité ou au fait limité, sur l'intensité du désir que l'individu peut éprouver à se procurer tel ou tel bien. De la psychanalyse, nous apprenons aussi ce qui structurellement peut également faire lien. Je commence par les effets positifs du désir féminin qui transcende l'ordre du contrat, qui résiste à l'universalisation productrice des ségrégations, comme le rappelle Colette Solaire dans ce que Lacan disait des femmes, où elle rappelle également que Lacan disait qu'il fallait compter sur l'exigence d'amour des femmes à cause du réel de leur jouissance pour donner un partenaire à ce réel, arrimer leur jouissance trop réelle au ré d'un lien d'élection. Il y a donc l'amour, non celui trompeur qui aspire à l'infusion, mais l'amour structuré comme un symptôme qui lie deux inconscients, suppléance au non-rapport sexuel, et dans la même logique du symptôme lien social, le symptôme père de l'homme qui noue amour, sexe et génération. Et il y a le discours hystérique. Le discours des hystériques qui ont participé à la découverte de la psychanalyse. Dans la structure clinique de l'hystérie, quand c'est une femme qui s'intéresse aux symptômes de l'autre homme, à son objet femme, mais plus largement, il est précieux pour notre lien d'école, pour le groupe des psychanalystes, puisqu'il n'est pas régi par le discours analytique, petit a en place d'agent étant d'aversion, à l'égard du semblant, et que ce lien d'école, on ne le veut ni régi par un guide suprême, ni par le discours universitaire.
Soudain, nous écoutons les silences. Je vais tenter de parler de ces trous inviolables du nœud boromien où s'éloge la pudeur et qui fonde l'acte analytique. La guerre n'est pas un déchaînement de la nature humaine, au contraire,
c'est une modalité de commerce interhumain. La part du principe que la guerre est un réel inéliminable du pouvoir,
elle est une des plus anciennes formes de jouissance.
La guerre et la civilisation vont main dans la main. Elles se font les plus souvent au nom des plus hautes exigences de la civilisation. Le bonheur, la justice et les progrès. De même, ces progrès scientifiques, les discours de la science, transforment notre rapport à la guerre. Si je me permets de parler de la guerre, c'est à partir de mon expérience en tant que psychologue clinicien dans un centre de soins pour des personnes victimes de violences politiques. Le centre Primo Levi, c'est le seul centre de soins orienté par la psychanalyse en Europe. Cette orientation détermine beaucoup de choses, entre autres l'indépendance financière, c'est-à-dire qu'une grande majorité des centres de soins travaillent pour les États et dépendent financièrement d'eux. L'indépendance financière nous donne une fragilité, mais nous donne la force de pouvoir proposer des soins qui ne peuvent pas être proposés ailleurs. Des notions de Lacan telles que les discours ou la langue dans un seul mot sont essentielles pour nous. Elles prennent un sens nouveau à chaque suivi qui s'est fait dans une autre langue, à peu près 23 langues, et dans la présence d'un interprète pour chaque patient. Je vais tenter de vous donner quelques briefs de mes réflexions sur les thèmes qui nous réunissent ce soir à partir des effets de la guerre et de la position du discours analytique face à elle. Freud et la guerre. Freud, en 1915, ne s'intéressait pas tant à l'organisation des armées qu'à la dissolution du sens moral des foules en temps de guerre. Je cite, « Tout se passe comme si dès lors qu'on réunit une multitude, voire même des millions d'hommes, dit Freud, toutes les acquisitions morales des individus s'effaçaient, qu'il ne restait plus que les aptitudes physiques et les plus primitives, les plus anciennes et les plus grossières. » Fin de citation. Freud avait trouvé que les principes d'unification dans les organisations collectives, telles que l'armée, étaient la haine et la crainte vers une personne ou vers une institution. L'identification au leader était une forme d'unification, mais la conclusion de Freud est que de tout de même que la foule reste instable du fait que l'amour vers les leaders n'est toujours pas égal. Nous constatons aujourd'hui qu'en effet, les foules se rassemblent autour non d'une personne mais d'insignifiants. Soulignons l'importance de la transformation des rassemblements que les réseaux sociaux suscitent aujourd'hui. Des groupes de discussion autour d'un intérêt commun. Grâce au smartphone, à présent, il est possible de donner rendez-vous dans un lieu précis, avec un objectif bien défini, des centaines de personnes. Ces rassemblements s'appellent les foules éclairs. Aussitôt rassemblés, aussitôt dispersés, sans chef précis, mis à part les signifiants. Soulignons aussi l'absence des paniques après la dissolution, un changement produit par les gadgets qui ont participé à la transformation du circuit de la demande. Les smartphones permettent d'être connectés, branchés à l'autre, entendre la voix et même voir la personne, peu importe la distance. La panique collective est rare de nos jours. On parle plutôt de l'attaque des paniques individuelles. Nous vivons dans une ère de la société mobile où les messages électroniques peuvent jouer un rôle décisif dans la chute d'un président ou les mouvements de tout un pays. Par exemple, les printemps arabes de 2011, les messages électroniques introduisent quelque chose de nouveau à la barrière psychologique de la peur qui est presque franchie. À ma connaissance, Freud a été confronté deux fois à s'exprimer sous la guerre. La première fois était en octobre 1920. Il intervient au titre d'Esper. Les lieutenants Coderre étaient accusés de simulation et risquait la peine de mort. La conclusion de Freud que Freud tire de ce débat reste encore aujourd'hui une orientation clé dans ces terrains toujours glissants de la névrose de guerre. Freud renverse le problème classique, non malade égale simulateur. Il dit, tous les névrosés sont des simulateurs, ils simulent sans les savoir et c'est leur maladie. Mais au-delà de la portée clinique, une question éthique était en jeu, les devoirs du médecin de se mettre du côté du malade et non au service de l'État et ses visées guerrières. Un congrès a eu lieu en 1918 à Budapest. Freud, Ferenczi, Abraham, entre d'autres, interviendront de la question de la névrose de guerre. Après ces congrès, l'idée était d'ouvrir des services psychanalytiques dans les hôpitaux militaires, mais le mouvement analytique n'a pas pu aller jusqu'au bout pour deux raisons principalement. La disparition d'une grande partie des symptômes causés par la guerre lorsque la paix est revenue, et deuxièmement, l'intérêt des États pour la névrose de guerre ne trouva aucun intérêt économique. Soulignons que c'est plus le cas aujourd'hui, les changements radicaux qui vont se produire avec la guerre du Vietnam. En 1921, Freud propose une base essentielle pour la construction de ce que Lacan, quelques années après, appellera les discours analytiques. Il dit « La psychologie individuelle est aussi d'emblée et simultanément une psychologie sociale. » Ce que Lacan traduira plus tard dans ces termes, le collectif n'est rien que le sujet de l'individuel. Ce qui veut dire que pour Freud, parler du social, du politique, n'est pas parler d'un terrain annexe ou d'un lieu partagé, mais c'est au cœur de la psychanalyse, de l'inconscient. La deuxième fois que Freud prend position par rapport à la guerre est l'écrit intitulé « Pourquoi la guerre ?». Quand on lit ces textes aujourd'hui, on se rend compte de l'importance de la théorie des quatre discours de Lacan concernant la place de la psychanalyse face au réel. Je ne peux pas m'arrêter sur le contenu de cet écrit de Freud. Lacan, dans son séminaire « Les noms du père », dira de Freud qu'il était dupe du réel. Pour Freud, le réel est de l'ordre de l'occulte, de l'impossible. Les discours du capitaliste met à l'épreuve la demande et les sujets supposés savoir. Le piège est de tomber dans un discours d'espère comme Freud l'a été dans les années 20, un espère devant les discours du maître. Lacan lance un appel à la prudence concernant toute prise de position concernant les avancées de la science qui, entre autres, modifie notre rapport à la guerre. L'occulte, dit Lacan, ne peut quand même pas seulement se définir par les faits enfants qu'il soit rejeté par la science, parce que c'est fou tout ce que rejette la science, avoir la guerre. Ils sont là, tous les savants, à se creuser la tête. Farum Krieg. Pourquoi la guerre? Ils n'arrivent pas à comprendre ça, les pauvres. Oui, ils se mettent à deux pour ça. Freud et Einstein. C'est pas en leur faveur, dit Lacan. Lacan conclut en posant le principe du discours analytique, ce que Freud a appelé l'occulte et l'absence de rapport. La réponse de la psychanalyse à la question « Pourquoi la guerre ?», selon Lacan, il me semble, est l'absence du rapport sexuel. Lacan et la guerre. Revenons brièvement sur un texte qui n'est pas très souvent repris et qui me semble montrer déjà une position très différente de celle de Freud. Il s'agit d'un texte intitulé « La psychiatrie anglaise et la guerre ». Ce texte est un récit de voyage d'études en Angleterre de 5 semaines à la fin de 1945. Lacan y tente de rendre compte de l'impact de la psychanalyse sous la méthode de la psychiatrie anglaise. C'est un compte-rendu de l'état du malaise dans la civilisation en 1945. Lacan décrit un monde qui paraît loin, la sortie de l'enfer, l'atmosphère est plutôt à l'utopie. Une conclusion qui résonne encore aujourd'hui, au lendemain de cette guerre, est la docilité de l'homme moderne. C'est les grands enseignements de la guerre. Dans ce texte sur la psychiatrie anglaise, il est un déplacement important de Lacan. Il montre déjà comment, pour lui, la problématique n'est pas un conflit entre les pulsions ou avec les pères, mais entre les discours. Un changement d'approche était déjà présent. Dans ce texte, Lacan procède à un véritable analyse des discours. Il va confronter deux approches très différentes d'un même conflit. Il va souligner qu'il n'est plus question du collectif ni de l'individuel, mais des discours, Même si ces termes n'avaient pas encore toute l'ampleur qu'il prendra à la fin des années 60, l'impact du langage sur l'organisation collective est déjà présent. Dans ces textes, Lacan nous montre d'un côté les mondes dans lesquels vivait la France à ce moment-là. Il était un monde d'irréalité. Tandis que, de l'autre côté de la Manche, il y avait un rapport véridique au réel. Cette traversée de la Manche a été comme une traversée du miroir pour Lacan. En effet, il montre comment, dès que les réels de la guerre pointent son nez, deux formes de jouissance se mettent à l'œuvre. Un enchantement délétère d'un côté français et un ressort moral du côté anglais. La critique de Lacan est sans aucune sorte de vergogne par rapport à la position des Français pendant l'occupation. Les mots les montrent bien. Il dit une idéologie foraine, voire un délire agonique, avec un mélange de grandeur, parenté des radotages, de la sénilité, et il finit pour conclure que finalement, cette position ressemble à des fabulations compensatoires propres de l'enfance. Une présence démesurée d'un imaginaire surdimensionné. La conclusion de Lacan sur laquelle il ne cessera de revenir dans son travail est que du côté français, il ne voulait rien savoir. Nous pouvons ajouter sur les réels, ce qui est problématique parce que ce silence est une forme de collaboration. C'est la grande difficulté de trouver une position juste face à la misère du monde. Dans la télévision, Lacan dit « Les psychos, tels qu'ils soient, quels qu'ils soient, qui se coltinent la misère du monde, ils ne protestent pas, mais ils collaborent. » Et il dit « Et dire que la misère est la faute du discours capitaliste est une manière de les renforcer. » Pendant l'occupation, cette position du refus des savoirs était une manière de collaborer activement au délire paranoïaque sous lequel le nazisme était assis. Dans les textes sur la psychiatrie anglaise, Lacan est très attentif à l'implication de la psychanalyse dans les effets de la guerre. Il critique toute implication de la psychanalyse dans les efforts de la guerre, ce qui développera ultérieurement sous le nom du discours du maître. Qu'est-ce qui fait lien social? On pourrait peut-être en tirer la conclusion que c'est l'obéissance qui soutient les liens sociaux. L'obéissance à un dire qui n'est pas de l'ordre de la parole, mais d'un autre ordre. Signalons les changements de position par rapport à Freud de la part de Lacan. Freud croyait à l'importance du leader qui n'est rien d'autre qu'un représentant du père mort de la horde. Lacan insistait sur ses rêves de Freud, qui étaient les meurtres du père comme condition pour fonder un lien social. Mais il montre très tôt qu'il y a déjà un au-delà du père, les points d'organisation des foules, des masses n'est plus l'identification, mais les rejets, la peur du rejet par les autres. Avec la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un changement des discours qui est prélevé par Lacan, on peut le résumer ainsi. C'est dans les textes Les Temps logiques. Il dit « Je m'affirme d'être un homme par peur d'être convaincu par les hommes de ne pas être un homme. » C'est la fonction de la hâte, donc, qui pousse au sujet à quitter la position du non-savoir pour poser un acte qui montre un manque à l'être qui produit une affirmation. Cette logique de l'angoisse, de ces points d'angoisse qui existent dans toute formation collective, l'angoisse propre au groupe, « je suis », devient une urgence par peur d'être rejeté par l'ensemble. Je ne pourrai pas développer les changements radicaux qui se sont produits concernant les névroses de guerre jusqu'à nos jours. Je vous renvoie vers les livres de Didier Fassin et Richard Reichmann qui ont bien montré la naissance d'un empire, d'un nouveau empire, l'empire du traumatisme. Le discours capitaliste a repris cette question de la guerre sous un angle qui on sentait déjà venir depuis Freud. l'invention des psychologues, l'intervention pardon, des psychologues, des psychiatres sous les théâtres de la guerre et des catastrophes est devenue normale à nos yeux, mais il a fallu une transformation radicale. Avant, les traumatismes n'avaient pas un droit de cité comme à présent. À présent, une personne qui a rencontré le réel de la guerre ou qui a connu un accident peut réclamer une indemnisation, réparation financière au titre d'un trauma psychique. Ceci montre bien comment les discours capitalistes chiffrent toute rencontre avec le réel et la question n'est plus d'ordre clinique, mais financière. Ce qui est aussi le cas de la demande d'asile politique. Le faux devient vrai par une astuce du discours capitaliste. Nous sommes passés d'un régime de biopolitique à un régime de biolégitimité. C'est un point essentiel parce que les discours du capitaliste introduit dans les discours de la guerre un nouveau langage qui vient faire suppléance à l'absence du discours du guerrier ou d'un héros d'antan. Nous avons perdu ainsi, comme le soulignait Lacan, les sens du tragique. Le discours de la science est venu bouleverser l'art de la guerre. L'esclave, le soldat, n'est plus un esclave ni un soldat au sens antique, parce qu'il n'a plus un savoir-faire. Ce savoir-faire lui a été soustrait par les maîtres. Mais le discours du maître moderne trouve son fin mot dans les discours du capitaliste, avec la curieuse copulation entre la science, avec la science. En effet, le discours du capitaliste n'est pas un discours à part entière, mais une version du discours du maître moderne. Le changement radical, le soldat moderne n'a plus un savoir-faire, il est un simple élément parmi d'autres, sa singularité, son savoir singulier n'est plus reconnu par l'autre. Le discours capitaliste s'en moque, il les rend inutiles, dit Lacan. Il a destitution subjective, il est simple exécutant. On parle des corps dociles, des dressages, Foucault est peut-être celui qui a montré le mieux ces corps dociles de la guerre, où finalement les soldats idéaux et les robots. C'est une machine de la mort, les sujets sont au service de la machine. La guerre aujourd'hui est au service de l'arme la plus puissante. Les corps à corps, c'est fini, le réel de la guerre est arrivé dès l'imprévu par les moyens scientifiques et techniques de plus en plus sophistiqués. Le soldat n'est pas seulement dressé par la machine, mais il devient lui-même machine de guerre. La promesse du discours capitaliste est la réduction de la mort zéro, zéro mort. Le soldat moderne est un soldat qui n'est plus régi par l'idéal phallique, mais il est remplacé par un idéal de consommation. Les crimes sont renversés par les suicides. Nous assistons à une guerre dématérialisée, une guerre sans trace comme en Tchétchénie. La nouvelle guerre est une guerre qui est menée par Argos, le géant à sans yeux de la mythologie grecque. C'est le nom qui est donné au système de gestion des drones employé par l'armée américaine. En effet, le soldat moderne a été vidé de son corps. Les pilotes dirigent à présent des avions sur des écrans qui tuent dans la réalité. Le technocapitalisme ne s'encombre plus avec les prisonniers des guerres. La devise est de tuer plutôt que de capturer. La devise de Foucault, surveiller, ne se suit pas de punir. On surveille pour éliminer l'élimination. Les drones militaires ne sont pas simplement des cieux qui regardent, mais des cieux qui peuvent tuer, ils sont des prédateurs. Mais on sait bien qu'un œil ne peut pas tout voir, il existe un angle mort, un point décapitant, et c'est dans ces points que se trouvent les réels de ces regards. Si les drones ont un pouvoir de tout voir, de l'autre côté, la société réclame un désir réciproque de tout montrer. C'est sur ces points qu'il me semble que Lacan a introduit la question de la pudeur. La pudeur chez Lacan est en lien avec les points d'évanouissement du sujet où le sujet disparaît derrière les signifiants. L'objet a cette fonction précisément, dit Lacan, de signifier ces points où le sujet ne peut se nommer, où la pudeur, dit-il, est la forme royale de ce qui s'est monnaie dans les symptômes entre honte et dégoût. Dans les séminaires sur l'éthique, Lacan va marquer un changement essentiel concernant la pudeur et la honte. La pudeur est essentielle, dit Lacan, à produire. La cure produit la pudeur qui sera vérifiée par les dispositifs de la passe. Lacan poursuit plus loin en disant que s'il y a omission de cette barrière de la pudeur, il aura une incidence directe sur la question de la conjonction sexuelle et aussi sur la question de la sexualité féminine. Ce qui est une manière de dire que c'est le non-rapport sexuel qui est au centre. La pudeur est une barrière qui sépare et délimite tout accès direct à l'impossible. Seule la pudeur fait barrière face au réel indicible. Une autre fonction de la pudeur est d'être la gardienne de la castration et garante de la fonction du phallus dès que le voile est violé. Dans les séminaires sur les transferts, l'exemple qui donne Lacan est celui d'Alcibiade. Sa confession publique, dit Lacan, n'est possible que si on franchit les bornes de la pudeur. L'effet des hontes est alors secondaire au dévoilement de la pudeur. La pudeur s'éloge dans un lieu précis et il a une fonction importante. Lacan parle d'une pudeur originelle. En 1974, Lacan pose une question qui concerne les nœuds borromiens. Est-ce que les biens ont une place dans les nœuds? Il répond par la négative. Il dit que si les vrais et les beaux n'ont pas tenu les coups du nœud, il ne voit pas pourquoi les biens tiendraient les coups. Mais il ne s'arrête pas là. Après ce constat, il va ouvrir la voie vers un autre horizon, celui de retrouver les nœuds dans l'absence du vrai, du beau et du bien. La seule vertu qui reste dans les nœuds est la pudeur. La pudeur est l'effet du non-rapport sexuel. Elle gouverne les bien-dire. Les bien-dire ne violent pas la pudeur. Il produit un choc, mais la préserve. Elle est donc une limite invisible à l'action du nœud. Lacan va compléter Freud par rapport à la pudeur. Cette dernière n'a pu que montrer la face imaginaire, l'impasse visuelle de la pudeur. L'histoire du voile, de l'habillage, est là pour montrer comment l'espèce humaine est la seule qui cherche à se cacher, à cacher son corps, sa nudité. Pour Freud, la pudeur est une limite nécessaire, une résistance. La pudeur est la mise en place du refoulement dans la langue, c'est-à-dire la mise en place d'un type de jouissance autre que la jouissance phallique. La pudeur est une sorte de silence nécessaire, de mutisme, où le discours sert de coupure effective. C'est un refoulement sans ratage. Lacan va faire la différence entre la pudeur et la honte. Pour Lacan, la honte est une vicissitude de la pudeur. C'est la structure de la pudeur qui est essentielle au discours analytique. Elle est en lien avec la barre qui vient frapper les signifiés pour produire la division du sujet entre les signifiants et les signifiés. La signification phallique, quand elle est faite d'un côté apparaître l'être du sujet et de l'autre côté l'irréalité de l'avoir. Le voile de la pudeur est constitutif des sujets. Le sujet n'est jamais un, il est toujours divisé. Chaque fois que le sujet est en position d'objet, il y a apparition de la pudeur, ce qui est différent à la honte. La pudeur veille sur les points d'horreur face à l'inexistence du rapport sexuel. L'horreur du savoir parce qu'il n'y a pas d'inscription qui permette les rapports à l'autre sexe, qui est dans les centres en vide. La pudeur chez Lacan est l'équivalent des rêves chez Freud. Les discours capitalistes se servent de l'astuce du voyeur, de l'exhibitionniste et du sadique qui consiste à violer les points de la pudeur. Entre ces trois figures que l'on trouve omniprésentes dans nos sociétés, les questions de l'amour sont laissées de côté parler de l'amour, c'est parler de la pudeur. Il n'y a pas de place non plus pour les savoirs, pour l'amour, au savoir, mais plutôt pour une jouissance. Pour qu'il y ait désir de savoir, il faut un voile qui vient couvrir quelque chose pour faire surgir un manque dans les savoirs. Le discours du capitaliste a trouvé la manière de coincer les sujets dans une volonté de donner à voir qui l'empêche de savoir. Les voyeurs nous distrait du savoir, il fait chuter les savoirs. Nous sommes soumis à l'image, plus d'intérêt pour les savoirs, mais pour les voir, ce qui est une manière de déconnecter les sujets de son inconscient. Il me semble que l'insistance de Lacan par rapport à la définition de l'inconscient comme un savoir individuel va dans ce sens. La violation de la pudeur laisse les sujets nus sans recours possible. Freud avait trouvé les termes intraduisibles Inflossigkeit, le sujet est mis en position de débilité face à la comme une certaine fragilité mentale entre deux discours qui produisent l'effet de colère et d'indignation. Une fraternité s'établit entre la science et la technologie pour violer la pudeur. Le discours capitaliste possède les secrets du savoir sur les sexes. L'astuce du discours capitaliste est donnée à voir à la place du savoir et le spectacle de la mort. Au cœur de notre malaise dans la civilisation existe ce que Freud appelait le masochisme primordial, une violence fondamentale qui oscille entre l'autodestruction et l'hétérodestruction. Cette violence est constamment remaniée par les discours en tant que structure du lien social. La politique, les droits n'éliminent pas la violence, ils la mettent en suspens, ils cherchent une dérivation, mais elle est insoluble. Ce que Freud appelait la pulsion des morts est une force constante et insoluble. Bien qu'il la présente sous la forme d'un mythe, Lacan a retenu la part qui advient au réel. L'espèce humaine est régie par cette force constante qu'est la pulsion des morts. Tout n'est pas langage, le discours analytique est un discours sans parole, ce qui est un signe de la pudeur, seule vertu propre au discours analytique. Dans sa théorie des discours, Lacan insiste sur la dépendance de tous les discours au discours du maître, et notamment de ses rapports entre les corps. Mais justement, dès qu'on rentre dans les discours analytiques, dit Lacan, il n'est pas question du corps. Les entretiens préliminaires sont là justement pour défaire ces corps à corps et introduire les sujets dans un autre type de lien social où ce qui fonde est les dires. Les dires, c'est les discours. La réalité s'écoule du dire. Merci.